Le temps ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, 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 les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vous criez dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui voulait vous en proposer? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre débarron.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquants juvéniles, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Voilà, donc pour ce bruit de tôle, on va au sommaire commencer par le dossier Seyss. C'est-à-dire qu'on va revenir en détail sur ce rapport des conditions de détention dans cette prison qui ont tout l'air d'être totalement inacceptables. Puis ensuite, nous entendrons Bruno qui, sur ZEP Média, témoigne de sa sortie de prison. Et qui témoigne aussi de ses conditions d'enfermement aussi par la même occasion. En deuxième partie, nous verrons que la répression des luttes, que ce soit à Bure, au Val-de-Suze ou ailleurs, ne fonctionne pas toujours comme le voudrait l'État. Tant mieux. En fin d'émission, une mise en garde contre le danger Internet, car nul n'est à l'abri, même sur des messages soi-disant protégés, en tout cas ces messageries chiffrées. Voilà. Et je vous rappelle que vous écoutez Bruit de tôle, que l'émission est en direct le jeudi de 19h à 20h et qu'ensuite elle est rediffusée le vendredi de 17h à 18h et qu'on se retrouve tous les 15 jours sur cette antenne. Vous pouvez nous téléphoner si vous avez des informations ou des commentaires à faire pendant l'émission en direct le jeudi, mais de préférence pendant les morceaux de musique. Le téléphone, je vous le rappelle, est le 05 61 53 36 95.
Vorrei avere un palazzo sopra monti, vorrei avere tutti per i domandi, vorrei avere tutti per i domandi. Mm-hmm. quando ci avvaci tu, bella calandi. Quando ci avvaci tu, bella calandi.
Il y a des petits problèmes là, le qui saute. Bon, bah on va continuer l'émission en attendant et remettre le CD ailleurs.
Alors la musique ne veut pas aujourd'hui. Et donc, fin juillet, on vous parlait du compte-rendu de visite de la prison de Seyss effectué par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc, c'est une visite qui a eu lieu entre le 31 mai et le 11 juin 2021, effectuée par 11 contrôleurs et qui avait noté un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues au sein de cet établissement sont indignes. Et donc là, on a eu accès à un rapport plus complet, c'est le contrôleur général qui a décidé de rendre ses observations en fait publiques. Et donc on voulait revenir donc sur ces observations plus détaillées. Alors c'est en plusieurs points, hein. Le premier point c'est sur la surpopulation est dramatiquement élevée et entraîne des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues. La capacité opérationnelle du quartier de la maison d'arrêt des hommes est de 482 places. Au moment du contrôle, l'établissement héberge 898 détenus, soit un taux d'occupation de 186%. 173 détenus dorment sur un matelas posé sur le sol. La situation est similaire au sein du quartier de la maison d'arrêt des femmes, qui héberge 58 personnes pour une capacité de 40, soit un taux d'occupation de 145%. 5 d'entre elles sont contraintes de dormir sur un matelas au sol. Le quartier des arrivants n'est pas épargné puisqu'il compte 11 matelas au sol au premier jour de contrôle. Malgré les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, il y a toujours eu des matelas au sol au sein de cet établissement, 16 en mai 2020. Le centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss compte près de 200 matelas au sol, ce qui représente près du quart du nombre de matelas au sol pour l'ensemble des établissements pénitentiaires en France. Cette situation est inacceptable. Depuis la fin de l'année 2020, le nombre de personnes détenues augmente continuellement et entraîne une surpopulation plus élevée encore que celle dénoncée par le contrôleur général en 2017. Cette surpopulation endémique est connue mais peu questionnée par les acteurs locaux, qu'il s'agisse des magistrats ou du personnel pénitentiaire. Elle est liée à un double facteur, d'une part un grand nombre d'entrées en détention pour des peines courtes, et d'autre part des sorties qui pâtissent d'un manque d'organisation. Des peines d'emprisonnement nombreuses et courtes. En 2019, hors crise sanitaire, la moyenne mensuelle des arrivées en détention s'élevait à 310 contre 301 sorties. Ce nombre élevé des arrivées et des départs épuise l'ensemble des services pénitentiaires. Les surveillants sont les premiers à indiquer aux contrôleurs que ce phénomène, dit des portes tournantes, retire tout sens à leur métier. La durée moyenne d'incarcération au sein de l'établissement n'est que de 4,5 mois, contre une moyenne nationale de 9,7 mois en 2019. Les faits poursuivis sont d'une gravité relative, quoique marqués par la récidive et sanctionnés par de courtes peines d'emprisonnement. La part des peines de 6 mois ou moins est de 35,2% en janvier 2021 pour une moyenne nationale de 24%. Ces peines sont trop brèves pour être investies par les personnes détenues, a fortiori dans un établissement surpeuplé dans lequel les délais d'attente pour accéder à des activités sont longs. Il doit également être rappelé que la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit pourtant l'aménagement ou la conversion des peines de moins de 6 mois et leur exécution en milieu ouvert. Les contrôleurs ont également relevé un lien étroit entre les mesures d'incarcération et les mesures de rétention administrative dont la conjonction entraîne un surenfermement des étrangers aggravé par la crise sanitaire. En 2019, la part des personnes écrouées de nationalité étrangère, pour la plupart en situation irrégulière, était de 26,5%. Elle s'élève à 36% en 2020. Début juin 2021, l'établissement comptait 471 personnes détenues de nationalité étrangère, soit une part qui dépasse 40%. Ces incarcérations sanctionnent généralement des infractions à la législation sur les étrangers. Les contrôleurs ont ainsi relevé, en juin 2021, la condamnation d'une personne à une peine de 2 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière. Des personnes étrangères sont régulièrement condamnées en comparution immédiate pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français. Plusieurs peines de 3 à 6 mois d'emprisonnement ont ainsi été prononcées avec mandat de dépôt courant mai 2021. L'administration pénitentiaire et les magistrats font le constat de la surpopulation sans la prendre en compte ou la mentionner dans leur politique d'octroi de réduction de peine, d'aménagement de peine ou de libération sous contrainte. Aucun rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, aucun avis de l'administration pénitentiaire et du procureur de la République ou décision de magistrat de l'application des peines dont les contrôleurs ont pris connaissance n'en fait état, alors que l'article 707 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne condamnée, incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire. En 2020, 35% des détenus du centre pénitentiaire étaient des prévenus. Tous les interlocuteurs rencontrés ont indiqué que la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique n'était pas utilisée. Le taux d'octroi des libérations sous contrainte est étonnamment faible, de l'ordre de 1 à 3%, alors même que la loi de programmation de la justice suffisait en a élargi les critères. Certains professionnels en font une interprétation propre, estimant à tort que seul un projet construit permet de fonder une sortie anticipée à ce titre. D'autres assurent, également à tort, qu'une personne en état de récidive doit être exclue du dispositif légal. Les détenus sont mal informés de leurs droits et des possibilités de bénéficier d'un parcours d'exécution de peine. Beaucoup, découragés, ne formulent aucune demande. Dans ce contexte, il est regrettable de relever que le dernier conseil d'évaluation a eu lieu le 13 juin 2018. Chargé d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer les mesures propres à l'améliorer, il devrait en principe se tenir une fois l'an. Cette lacune contribue à occulter les difficultés structurelles de l'établissement. Le niveau de la surpopulation carcérale au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seys est inacceptable. Il est connu de tous, mais aucune mesure n'est mise en œuvre pour y remédier. La suppression immédiate des encellulements à 3 et la fin du recours à des matelas au sol doivent être le premier objectif. Les protocoles ayant pour objectif la déflation carcérale, associant les différents acteurs de la chaîne pénale, doivent être mis en place sous la responsabilité des autorités judiciaires. Sous l'impulsion de la jurisprudence européenne et singulièrement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, JMB contre France, les juridictions administratives et judiciaires retiennent 4 critères au regard desquels elles examinent la dignité des conditions de détention. L'espace personnel dont les personnes détenues disposent pour vivre, les conditions d'hygiène, le respect de leur intimité et le temps passé en cellule. À l'aune de ces critères, les conditions de détention des personnes détenues au sein des quartiers maisons d'arrêt de l'établissement sont susceptibles d'être qualifiées d'indignes. Les personnes détenues disposent d'un espace personnel de moins de 3 mètres carrés en cellule pour vivre. Il ressort de la jurisprudence européenne que chaque détenu placé en cellule collective, doit bénéficier d'une surface personnelle minimale de 3 mètres carrés hors installation sanitaire. À défaut, ce manque d'espace personnel donne lieu à une présomption de violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsqu'il est compris entre 3 et 4 mètres carrés, l'espace personnel est considéré comme insuffisant, mais d'autres aspects des conditions de détention sont pris en compte, comme le respect des exigences sanitaires et d'hygiène de base, l'aération, le respect de l'intimité dans les toilettes, l'accès à la lumière et l'air naturel. Le centre pénitentiaire de Toulouse-Seys, construit pour une capacité théorique de 655 places, a dès son ouverture en 2003 vu ses cellules doublées, puis des matelas ajoutés au sol. À ce jour, pratiquement aucun détenu n'est seul en cellule. L'établissement compte 2 types de cellules, respectivement d'une surface de 10,2 m² et 13,8 m². Afin de déterminer la surface à disposition de chaque personne pour y vivre, les contrôleurs ont déduit l'espace des sanitaires, les lits superposés, la table, les chaises, deux ou trois selon l'occupation de la cellule, l'étagère, dont la taille diffère selon qu'il s'agit d'une petite ou grande cellule, ou les casiers utilisés comme étagère puisque certaines cellules ne disposent même pas d'un rangement. Le réfrigérateur et, le cas échéant, le matelas au sol. Ils observent que dans une cellule de 10 mètres carrés, il reste 2,7 mètres carrés par personne pour une occupation de 2 personnes et 1,28 mètres carrés par personne pour une occupation de 3 personnes. Dans une cellule de 13,8 mètres carrés, 2 personnes peuvent disposer de 4,41 mètres carrés par personne et 2,42 mètres carrés par personne lorsqu'elles sont 3. Enfin, la suroccupation concerne jusqu'aux 3 cellules pour les personnes à mobilité réduite. Conçue en principe pour permettre aux personnes en situation de handicap et aux soignants de disposer d'un espace suffisant pour se mouvoir, ces cellules sont toutes les 3 doublées. Au moment de la visite, la première héberge 2 personnes ne présentant pas de handicap apparent. La deuxième accueille 2 personnes dont une en fauteuil roulant. Enfin, la troisième est équipée de 2 lits médicalisés et accueille une personne tétraplégique et la seconde en fauteuil roulant sous oxygène. Ces 2 personnes n'ont pas suffisamment d'espace pour se mouvoir correctement avec leur fauteuil. Les contrôleurs ont constaté la présence de cafards et de punaises dans les parties communes, ainsi que dans les cellules et lits des détenus. Certains détenus ont indiqué s'envelopper étroitement de leurs draps la nuit pour éviter que les cafards ne courent sur leur corps. D'autres introduisent du papier toilette dans leurs oreilles pour empêcher que ces insectes y pénètrent pendant leur sommeil. Des rats courent dans des espaces de promenade jonchés de détritus. Des amas d'ordures s'entassent au pied des bâtiments et ne sont pas ramassés quotidiennement, contrairement à ce qui a été indiqué aux contrôleurs. Un cas de leptospirose a été signalé. La dégradation des locaux préoccupante est aggravée par la surpopulation. Les cellules sont pour la majorité en mauvais état. Les toilettes, souvent bouchées, ne sont pas toujours réparées dans des délais raisonnables. 3 personnes détenues dans une même cellule ont ainsi été contraintes de déféquer dans un seau pendant plusieurs semaines selon leur déclaration. L'eau de la douche ne s'évacue pas toujours correctement. Certains détenus tentent de la récupérer à l'aide d'une pelle. Les cellules PMR sont dans un état grave de vétusté et de délabrement. Moisissures au mur des sanitaires, douches bouchées, portes des sanitaires cassées depuis plus de 6 mois. Le matériel médical est entreposé n'importe où, les repas sont pris sur un plateau posé sur les genoux. Le manque de place entrave l'intervention de l'infirmière et la confidentialité des soins n'est pas respectée. Le manque de personnel de surveillance complique les mouvements et l'accès du partenaire privé aux locaux lorsqu'il doit effectuer les travaux de maintenance. À l'ouverture de l'établissement en 2003, un surveillant par étage était prévu pour 50 détenus. Au moment de la visite, au quartier de la maison d'arrêt des hommes 1, un surveillant s'occupe de 136 détenus. En maison d'arrêt 2, selon les étages, un surveillant est présent pour 90 à 120 personnes. Les portes battantes présentes à l'ouverture de l'établissement pour séparer l'espace de la cellule et celui des sanitaires sont toutes cassées. Il ne subsiste aucun cloisonnement permettant de préserver un minimum d'intimité lorsqu'une personne détenue se lave ou se rend aux toilettes. Très peu de personnes accèdent à une activité, qu'il s'agisse de formation ou de travail, et les activités sportives et socioculturelles n'ont pas repris depuis mars 2020, à l'exception de quelques heures de sport, ne bénéficiant qu'à quelques détenus. Le nombre de places de travail et en formation professionnelle permet à moins de 20% des personnes détenues de sortir de leur cellule. Mais lors de la visite, ces activités sont dans leur quasi-totalité à l'arrêt. La plupart des personnes détenues restent ainsi en cellule et bénéficient au mieux d'une heure de promenade par jour. Le climat d'insécurité qui règne en détention conduit certains à ne pas se rendre en promenade ou à ne s'y rendre qu'en semaine. Le temps passé en cellule avoisine donc les 22 heures par jour, et plus pour les personnes vulnérables ou craignant pour leur sécurité. La rénovation de la maison d'arrêt constitue une urgence, notamment en ce qui concerne les locaux d'hébergement, le mobilier et les sanitaires. Des mesures de dératisation et de désinsectisation d'une ampleur adaptée à la situation, avec obligation de résultat, doivent être mises en œuvre immédiatement. Le traitement de la surpopulation et la mise en place d'activités doivent permettre d'assurer aux personnes détenues des conditions de vie dignes.
Et on continue cette énumération. Je vous rappelle que c'est le rapport des médiateurs, des contrôleurs qui sont venus en juin-juillet à la prison de Seyss. Le point 3 concerne l'intégrité physique des personnes détenues et qui n'est pas assurée. La dignité des conditions de détention ne se résume pas aux conditions matérielles d'hébergement. Elle dépend aussi de la prise en charge des détenus et de la capacité des services auxquels ils sont confiés. Alors on constate donc, ils disent, un climat de violence et d'insécurité permanent, de graves carences dans le traitement des violences entre détenus. Chaque année sont décomptées environ 150 interventions pour des violences entre personnes détenues. Les incidents, violences quotidiens, au dire de tous, ne sont pas systématiquement tracés dans Genesis, qui doit être le rapport, quoi. De sorte que les difficultés sont insuffisamment répertoriées, analysées et traitées. Aucun travail de prévention ou de règlement de conflits n'est mis en place. De nombreux détenus ont témoigné de ce climat de violence généralisé en cellule et dans les cours de promenade où les agressions sont fréquentes. Parfois commises en réunion, parfois avec des armes artisanales. Peu avant l'arrivée des contrôleurs, un détenu a été blessé par une arme artisanale durant son sommeil. Pendant le contrôle, des détenus se sont battus en cellule. Un autre a été sérieusement blessé à l'aide d'une arme artisanale lors de la promenade. Selon les témoignages recueillis, les surveillants n'entrent pas en cours de promenade, mais attendent que la victime soit ramenée par d'autres détenus ou se déplacent à l'entrée pour l'extraire. Par crainte des agressions, de trop nombreuses personnes ne sortent plus de leurs cellules. Les violences entre détenus et surveillants. La surpopulation et l'inactivité forcée des détenus, dont un nombre important parle peu ou mal le français, sont livrés à eux-mêmes, entraînent d'inévitables tensions. L'exercice du métier de surveillant dans ces conditions est difficile. Le personnel de surveillance n'est aucunement placé dans des conditions permettant de mobiliser des pratiques professionnelles qui leur ont été enseignées et recommandées. D'après les éléments recueillis sur place en 2020, l'établissement décomptait 64 agressions physiques sur surveillants et 114 faits de violence verbale. Les contrôleurs ont également recueilli des nombreux témoignages concordants de personnes détenues dénonçant des recours excessifs à la force et à la violence de la part des surveillants. Des entretiens avec des professionnels l'ont confirmé. Une très large majorité de personnes détenues, entendues par les contrôleurs, fait état de violences verbales habituelles, injures, menaces, brimades. Les détenus indiquent ne pas oser porter plainte par crainte de représailles. Privés d'autonomie, les détenus sont en effet tributaires de la disponibilité et de la bonne volonté du personnel qui peut décider de ne pas prendre en compte une demande, de ne pas transmettre un courrier, faire patienter des heures, puis refuser un déplacement vers le parloir ou tout autre rendez-vous, même médical. L'ambiance en détention est délétère. La direction de l'établissement s'y rend trop rarement et n'y est pas identifiée, n'effectue que exceptionnellement des entretiens avec les détenus. Les plans d'objectifs prioritaires de la structure prévoient la mise en place d'un comité de pilotage par semestre sur les violences, ainsi donc que la rédaction d'une procédure de saisie et de suivi des violences dans le logiciel Genesis. Un tableau des incidents est dressé, ce qui semble totalement insuffisant et bien peu concret pour assurer la sécurité de tous. Afin de mettre un terme au climat de violence qui règne dans cet établissement, la direction doit être plus présente en détention et assurer un contrôle. Toute allégation de violence doit être recensée, tracée, faire l'objet d'un contrôle systématique par la direction. Des mesures immédiates doivent être prises, en particulier par la diffusion de consignes, la mise en place d'actions de formation et par un renforcement de l'encadrement. Des conditions d'accès aux soins dégradées qui ne garantissent pas la protection de l'intégrité physique des détenus. Cette intégrité physique des détenus au centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss est gravement compromise par les dysfonctionnements qui affectent leur accès aux soins en milieu hospitalier. L'accès aux soins des personnes détenues, donc, n'est pas assuré et c'est pourtant un droit constitutionnellement garanti, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui en fait une des composantes de la protection contre les traitements inhumains et dégradants. La loi pénitentiaire de 2009 en réaffirme le principe. Toute atteinte au principe de l'accès aux soins est susceptible d'entraîner une perte de chance, parfois vitale, pour les personnes concernées, voire de caractériser un déni de soins. Les constats qui ont été effectués par le contrôleur général à ce titre au sein de Toulouse-Seyss sont totalement préoccupants. la diminution importante des extractions médicales, actée fin 2015 lors de la négociation du contrat national avec l'entreprise Sodexo, a déjà été dénoncée dans un rapport en juin 2017. L'établissement est passé de 5 à 4, puis à un seul véhicule par jour pour les extractions médicales. Deux extractions sont possibles par jour ouvré, ce qui entraîne des retards de soins. La situation connue tant des personnes détenues que des soignants a pour effet direct la diminution des soins, donc, et les premiers renoncent à solliciter tandis que les seconds hésitent à les prescrire. Un rendez-vous programmé d'annulation en augmentation, entre 50 à 56% d'annulation. Toute extraction décomptée, donc, ce sont plus de 65% des besoins qui ne sont pas satisfaits, faute de moyens de transport. Il résulte une prise en charge donc défaillante, que ce soit dans des spécialités comme l'ophtalmo, la neurologie, la chirurgie orthopédique. Le départ de ces praticiens spécialistes intervenant précédemment à l'unité sanitaire, ils n'ont pas été remplacés et n'a pas été compensé par des consultations au CHU de Toulouse. La troisième conséquence est l'impact direct sur la santé des détenus. Plusieurs cas ont été rapportés aux contrôleurs pour illustrer cet état de fait, celui d'un anévrisme cérébral diagnostiqué et rompu avant chirurgie par retard de prise en charge. Celui d'une suspicion de tumeur pulmonaire pour laquelle la demande de scanner a été annulée plusieurs fois, entraînant un retard de soins. D'autres cas ont été évoqués, des retards de fibroscopie gastrique devant un syndrome ulcéreux et l'absence d'échographie dans les 48 heures d'une colite néphrétique. Ce mode de fonctionnement dégradé induit pour les patients des conséquences potentiellement graves, mais aussi une lassitude des équipes médicales et soignantes. Cette situation aggravée depuis le début de l'année en raison de la présence dans l'établissement de 3 patients dont l'État requiert des séances de dialyse régulières qui nécessitent 9 extractions médicales impératives chaque semaine. Malgré les alertes régulièrement lancées depuis presque 5 ans par le responsable de l'unité sanitaire, les autorités pénitentiaires, judiciaires et sanitaires n'ont pris aucune mesure pour remédier à cette situation. Et enfin, aucune mesure n'est mise en place pour y remédier de la part aussi du CHU de Toulouse. Donc le rapport met en cause cet établissement qui pourtant est pilote en matière de télémédecine, mais qui n'a pas cherché à le mettre en place au bénéfice des détenus. Non seulement cette abstention contribue au risque de perte de chance auquel sont exposés les patients détenus du fait de carences affectant leur prise en charge, mais également elle entraîne une inégalité de traitement entre ces derniers et les patients libres. Et donc, de manière plus générale, l'établissement, le CHU de Toulouse, a pris un retard important dans l'information du fonctionnement de l'unité de soins. Il n'existe pas de dossier médical informatisé, d'actes de consultation à distance, de pharmaceutiques, iconographiques, d'autant que le CHU, lui, dispose d'un dispositif de transmission de ces données. Et l'absence aussi de staff clinique en visioconférence qui ne permet donc pas d'améliorer cette situation. Une prise en charge somatique adaptée aux besoins et droits des patients doit donc être mise en place sans délai. Alors la conclusion de tout ce qu'on a dit, alors on tenait quand même à concrétiser les approches négatives parce que souvent on dit que c'est des conditions inacceptables, mais là c'est 11 personnes qui ont sillonné la prison et qui ont donc établi ce rapport détaillé et qui donne des preuves de ce qui se passe à Seyss. Conclusion, le centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss doit faire l'objet d'une part de mesures urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation des cellules, la désinfection, l'accès aux soins somatiques et d'autre part, une reprise en main du fonctionnement de l'établissement, notamment pour faire cesser le climat de violence, ainsi que de garantir au personnel des conditions normales d'exercice de sa mission et aux détenus le respect de leur dignité, de leur intégrité physique, de leurs droits fondamentaux. Et de demander au ministre de la Justice et de la Santé de faire procéder à une inspection approfondie de l'établissement et d'informer le contrôleur de ses conclusions et du suivi du plan qui en découlera. Je crois que Darmanin a fait une petite remarque sur ce rapport, hein, disant qu'il était très global.
Oui, comme d'habitude, même s'ils ont des obligations de réponse, ils s'en soucient pas des masses, les pouvoirs publics. Mais bon, du coup, à la suite de cette alerte qui a été lancée le 13 juillet, à laquelle pour l'instant il n'y a pas eu de réponse satisfaisante, évidemment, l'Observatoire international des prison et l'ordre des avocats du barreau de Toulouse ont le 16 septembre dernier saisi le juge des référés pour contraindre donc les pouvoirs publics à agir, et le tribunal administratif de Toulouse devrait donc se prononcer dans les prochains jours. Il n'y avait pas encore de rendu encore aujourd'hui, mais je pense que d'ici la prochaine émission, dans 15 jours, on devrait avoir des nouvelles de cette procédure en cours.
Et puis, ce qu'on vous lit là, c'est pas des méchants qui ne veulent pas de la prison, parce que même la dépêche du 18 septembre en parle, 24 heures, fait divers, et elle parle de conditions de vie indignes à Seyss. La justice est donc saisie, et elle parle en effet de ces rats, de ces cafards, de ces punaises, et un petit peu prenant des extraits du contrôleur général. Donc même si la dépêche le dit, quand même...
C'est que ça doit être vrai.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du mal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombé dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Mirabel, il pue d'au balletti perdu. Ma mirabel, il m'y est, ça qu'elle est amoureuse. Fas rien que c'est spincha tout et doux. La lune era tan clara, la vieja en lento, musicien que sacara, si je y es un amour. Nous mi rappelli pu dans balletti perdu, ma mi rappelli mai cante di angelus e queria un amour.
Entendre Bruno qui dit sortir de prison, je n'étais pas préparé. Donc c'est un entretien qui est podcasté par ZEP Média, sortir de prison, donc pas préparé. À sa première sortie, ça a été le choc, celui des retrouvailles avec ses proches, d'un rythme à défaire, d'un quartier changé. Donc on l'écoute.
Mes neveux que j'ai connus tous tout petits, ils avaient tous grandi. Ils parlaient et tout, c'était différent. Il y avait... Et je pouvais dialoguer avec eux, donc ça... Le changement, il m'a un peu surpris, parce que voilà, là, ils parlaient. J'avais même un petit neveu qui disait toujours en prison, toujours en prison. Et puis je l'ai appelé, je dis viens. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis toujours en prison? Après, il m'a dit ouais, en fait, c'est ma sœur, quand elle parle avec ma mère. Elle disait ça, ouais, toujours en prison. Et lui, il reprenait la phrase.
ZEP, le podcast.
J'ai 33 ans. Je suis CD de Melun depuis maintenant bientôt 2 ans. J'ai pris 18 ans. Sur les 18 ans, ils ont prononcé 12 ans de sûreté. Donc pendant 12 ans, je ne peux pas prétendre à une sortie, que ce soit en permission, que ce soit en aménagement de peine. Je veux aller doucement, en fait, quand je veux sortir de prison. Doucement avec ma famille, doucement pour moi, parce que c'est une expérience que j'ai déjà eue sur mes précédentes incarcérations. J'ai déjà eu une première peine de 7 ans, où je suis sorti au bout de 4 ans et demi. Quand je suis sorti, là où j'habitais, ça a changé complètement. Maintenant, il faut des passes carrément, même pour rentrer dans le quartier où j'habite. C'est un changement total. Ils avaient détruit des bâtiments, donc il y avait des endroits que je ne reconnaissais pas. Tous les endroits où j'ai passé mon enfance, où j'ai joué, les coins où j'ai joué, ça avait changé. Ils avaient tout détruit. Maintenant, ils avaient mis des jeux pour les enfants et tout. Ça avait complètement changé. Ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas déplu. Le fait de, par exemple, manger à table, en famille, un truc que j'avais plus l'habitude. Parce que là, ici, on est dans une cellule, on est seul. On est seul face à notre repas. Là, j'étais en famille, ça rigolait, je voyais les gens souriants. Voilà, pas être face à moi-même ou à la télé, ben, ça m'a fait un changement et ça marque, hein. Il y a plein de petits trucs comme ça, beaucoup de critères comme ça, de choc qu'on a amené à confronter quand on sort de prison, en fait.
ZEP.media.
Ma démarche, ce serait de, dans un premier temps, obtenir des permissions de sortie pour que ma famille, en fait, ils puissent se réadapter à moi. Et que moi, puisse me réadapter à eux dans de meilleures conditions. Sur mes précédentes incarcérations, ben, j'avais l'impression d'être envahissant. Par exemple, une fois, j'étais chez ma sœur. Je suis resté pendant quelques semaines chez ma sœur. Et puis, au début, ça se passe bien. Tout se passe bien, on est heureux. Voilà, je suis sorti de prison, tout le monde est content. Et puis au fil du temps, j'ai eu l'impression de déranger, quoi. Pourtant, c'est ma sœur. Elle m'aime, je l'aime, tout va bien. On s'entend super bien. Mais voilà, après, elle est dans son cocon familial, en fait. Donc, il y avait mes neveux, mes nièces, il y avait son mari qui était là. Et ils ont leurs habitudes. Ils ont leurs habitudes de manger à telle heure, de faire telle chose à telle heure. Et puis moi, j'avais encore ces habitudes de prisonnier. Donc d'être enfermé à 19h30, d'être seul à 19h30, de dormir dans un lit seul, de toutes ces choses-là. Et je sais pas, j'avais comme l'impression de déranger, quoi. Et ça, je veux plus que ça m'arrive, en fait. Là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'ai une copine, j'ai un enfant avec. Et je compte aller vivre avec eux. Mais je veux y aller doucement. Après ma rétention de sûreté, je compte demander des permes familiales pour pouvoir faire cette expérience de réhabilitation familiale avec eux. Je pense vraiment que les permissions, en fait, ça joue beaucoup sur ça. Le lien, de renouer des liens. Parce que moi, j'ai eu mon fils en prison.
Je veux pas qu'ils aient ce choc, en fait, du fait que j'étais pas là, en fait, pendant tant d'années.
Parce qu'au parloir, oui, c'est bien, on se voit, voilà, on rigole, ils peuvent venir, on peut ramener des petits trucs à manger. Mais au bout d'un moment, il en a marre. Parce qu'on est dans un petit... On appelle ça un box à cheval, ici. C'est un petit genre de petit box. Et des fois, il en a marre. Donc, il va pleurer. Donc, voilà. Après, mon parloir, moi, voilà, j'ai l'impression comme si ça se passe mal. Je m'en veux. J'ai vraiment... C'est ça que je vais faire. Je vais poser une permission et renouer ce lien pour qu'il ait des souvenirs meilleurs de moi et que le lien se crée plus facilement. Et qu'il y ait un souvenir qui lui reste gravé, en fait. Et ce souvenir-là, ce sera un lien père-fils, en fait.
Zep.media.
Voilà. Et après Bruno, on revient sur justement des gens qui luttent et sur... Là, on va parler du Val de Suse. Alors, on rappelle un petit peu ce que c'est quand même que ce Val de Suse. Ça fait près de 30 ans que se joue dans cette région du côté des Alpes italiennes et françaises une lutte écologique qui est une des plus intéressantes et les plus fortes d'Europe centrale. C'est un plan qui a été un projet qui date des années 90 et qui prévoit donc de rajouter une ligne à très grande vitesse, une ligne de train entre le Val de Suse. Mais il faut savoir qu'il y a déjà deux routes nationales, qu'il y a un chemin de fer, dont un TGV depuis 95, qui relie Milan, Turin, Paris, via Chambéry, Lyon, trois fois par jour dans les deux sens. Qu'il y a aussi une autoroute qui a été bâtie dans les années 80. Donc ce chantier est plus qu'inutile et néfaste, puisqu'il prévoit de creuser deux énormes tunnels de 23 et 57 km à travers les Alpes. Donc face à cela, eh bien, en Italie, et malheureusement pas en France, une grande lutte d'ampleur a réuni les habitants de la vallée, les militants, autonomes, les jeunes préoccupés par l'avenir de la planète et des personnes âgées qui retrouvent un sens de la communauté dans la lutte. Donc, composition hétéroclite, ce mouvement est particulièrement intéressant, puisque de toute façon, il ne lâche pas et qu'il continue toujours de s'exprimer. Partant de l'expérience des habitants qui subissent une emprise externe sur leur territoire, il cause du point de vue de son exploitation comme un couloir à traverser. Donc le mouvement Notav, c'est comme ça qu'il s'appelle, Notav, c'est le train à grande vitesse, a su recomposer des pratiques tout au long de sa lutte, alors des manifs pacifistes, des actions directes, des élections locales, des sabotages, le recours juridique, l'occupation de le public, bref, en tout cas, tout ce qui est possible, légal ou illégal. Les derniers jours ont été une parfaite illustration puisque l'organisation par les comités de village du festival Alta Felicita, qui réunit plusieurs milliers de personnes autour de concerts et de discussions, a bien été l'occasion d'une large manifestation en direction du chantier de Chiomonte et des attaques plus offensives sur ce même chantier par des groupes qui, eux, sont passés par la forêt. Il Giornale, le journal de droite, parle ainsi de 2 heures d'attaque, 3 agents de force de l'ordre blessés, 6 blindés détériorés, 1 jeep de l'armée détruite, 1 sac de matériel militaire volé. Et le gouverneur berlusconien du Piémont Alberto Cirio, déclare pour sa part « Si on aime sa terre, on ne la met pas à feu à sang. Si on respecte la démocratie, on ne la foule pas au pied de la liberté d'expression et le droit de manifester en les transformant en guérilla et en attaquant à coups de pierre ceux qui lui dédient leur vie en portant l'uniforme. » Que c'est beau. « Ce que l'on a pu voir hier dans la vallée de Suse, dit-il, ne peut être appelé que d'une seule manière, délinquance. » Donc ça, c'était le gouverneur qui parlait. En fait, on a vu plutôt de très joyeux délinquants de tous âges s'opposer avec détermination à ceux qui mènent dans ce Val de Suse une véritable politique de la terre brûlée. Face au désastre qui vient, seule la vie, la lutte est vie. Et pour toutes ces limites, malgré la répression ahurissante qui le frappe, ce mouvement, pas si local, constitue aujourd'hui un répertoire d'actions et d'alliances, un laboratoire passionnant d'élaboration et de contradictions pour celles et ceux décidés à inventer d'autres mondes.
Un court récit donc, de cette journée de manifestation qui a eu lieu dans le Val de Suse, donc récit transmis par le site notav.info. Le cri notav a une fois de plus brisé le silence dans la vallée de Suse. Malgré une météo incertaine, 7000 personnes ont enfilé leurs chaussures de marche et leurs bottes pour quitter les tentes du festival Alta Felicita et rejoindre le chantier de la nouvelle ligne à grande vitesse Turin-Lyon. À 14h30, un long cortège a commencé à serpenter dans les rues de la commune de Venos, composé de nombreuses personnes qui voulaient voir de leurs propres yeux le monstre qui a commencé à engloutir les arbres et les ruisseaux de la vallée. Des notaves historiques, des habitants de la vallée, mais aussi beaucoup de jeunes venus respirer profondément un air devenu de plus en plus rare, l'air de la lutte et de la liberté. Ce fut une joie immense de voir ces nouveaux visages, avec l'envie d'agir, avec la conviction d'être du bon côté, qui sont venus le sourire aux lèvres pour enfin mettre de côté le virtuel et revenir au réel. Seule la lutte est vie. Le cortège a d'abord atteint le hameau de Giaglione, puis s'est dirigé vers le sentier gallo-romain, frappé par une honteuse interdiction de circuler émise par le préfet. Pour concrétiser la suspension du droit de circulation dans ce territoire occupé qu'est le Val de Suse, un barrage de béton armé et des barbelés bloquent aujourd'hui le chemin dans les bois. Alors que plusieurs manifestants notaves tentaient d'abattre la barrière avec des moyens de fortune, une centaine d'autres ont décidé d'emprunter les chemins de traverse, où ils se sont livrés à une série d'actions visant à harceler les policiers engagés dans la défense du chantier de la honte. Dans les deux cas, les agents, près de 10 000 d'entre eux ont été envoyés au cours du seul mois de juillet, ont gazé les manifestants, confirmant le rôle de force de sécurité privée payée par l'État pour garantir la tranquillité d'esprit de quelques multinationales du ciment. Malgré cet énorme déploiement de force, un troisième groupe de manifestants notaves est descendu des bois et a réussi à pénétrer sur le chantier près de la zone archéologique de Chiomonte, coupant les filets et mettant hors d'état de nuire une Jeep Lynx de l'armée. Autant d'actions qui montrent que rien ne peut être fait par une armée mercenaire et dépaysée face à la détermination et la connaissance du territoire de ceux qui sont enracinés dans cette vallée. Nous sommes sortis de cette journée une fois de plus surpris par la capacité du mouvement notave à agréger autant de générations différentes, partant de besoins et d'exigences différents, qui se rejoignent dans une vision commune du monde. En confirmation de cela, nous avons vu une marche composée de nombreux jeunes, et même très jeunes, qui trouvent dans le mouvement notave un terrain de lutte pratique contre les responsables de la crise climatique, et dans le festival un moment pour tisser des relations dans un contexte libéré des logiques de consommation et d'exploitation. Alors que la politique institutionnelle vieillit sur ses bancs parlementaires, dans la vallée de Suse, génération après génération, la lutte contre ce grand projet inutile et écocidaire se renouvelle et exprime un nouvel espoir et un nouvel élan. Pour finir, il est amusant de constater à quel point la stratégie visant à invisibiliser et faire taire le mouvement notave, mise en œuvre par la plupart des journaux mainstream, à quelques exceptions près, de concert avec la préfecture de police, se court-circuite immédiatement lorsque des journées comme celle-ci se présentent et que certains journalistes se retrouvent à quémander des informations et des photographies ou à publier des articles inexacts basés sur le communiqué de la préfecture. Nous les invitons une fois de plus à venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe ici et à profiter un peu de l'air de Val de Suse.
Et la lutte aussi en France, là c'est par rapport à la lutte de Bure. trois ans d'instruction ont permis au procureur de la République et au juge d'instruction du tribunal de Bar-le-Duc d'utiliser des moyens juridiques de l'association de malfaiteurs et de la bande organisée pour réprimer le mouvement antinucléaire d'opposition à CIGEO, qui est le centre d'emplissement de déchets nucléaires radioactifs prévu à côté du village de Bure dans la Meuse. Ce jour, 21 septembre, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a relaxé les prévenus pour association de malfaiteurs et bande organisée. Des délits qui avaient fourni le prétexte pour les écouter, les perquisitionner, les surveiller, les contrôler, les éloigner de la Meuse et de la Haute-Marne. Alors certaines prévenus sont in fine condamnés essentiellement pour des délits politiques. Alors l'organisation d'une manifestation non déclarée en préfecture en 2017 et la participation à un attroupement après des sommations de dispersion. Ces délits sont punis respectivement d'un an et six mois de prison. La loi fait interdiction aux procureurs et juges d'instruction d'enquêter sur ces délits en recourant aux écoutes téléphoniques. C'est pourtant ce qui s'est passé, sous couvert justement d'une association de malfaiteurs qui n'existait que dans l'esprit du procureur de la République. Alors les condamnations, deux personnes relaxées des chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, de complicité et de détention d'explosifs. Le délit était énorme. Donc ils sont quand même condamnés à 9 mois de sursis, mais c'est uniquement pour avoir organisé une manifestation non déclarée et participation à un regroupement après sommation. Alors une personne aussi relaxée pour encore d'autres chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, complicité, détention d'explosifs, etc. Elle est condamnée à 9 mois de prison ferme pour organisation d'une manifestation non déclarée et participation. Alors donc il y en a, c'est des sursis, d'autres c'est du ferme. Une personne est condamnée à 6 mois de sursis pour la participation à un groupement après sommation, une autre à 9 mois de sursis pour transport d'explosifs et une personne condamnée à 12 mois ferme et interdiction de port d'armes durant 5 ans pour la détention d'explosifs. En outre, la Cour a décidé une confiscation de tous les objets saisis lors des différentes perquisitions, papier, téléphone, ordinateur, imprimante. Alors, aucune personne actuellement n'est détenue sous mandat de dépôt. La décision reste soumise à un appel qui sera suspensif de la peine ou à défaut d'un aménagement de peine sur décision de juge d'application des peines.
Et je ne sais pas si les auditeurs et auditrices se souviennent de ces militants pour le climat qui s'étaient fait une spécialité de décrocher les portraits de Macron dans les mairies pour alerter sur son inaction climatique. Donc il y avait quand même plusieurs de ces personnes qui avaient été condamnées. La Cour de cassation donc a rendu un avis le 22 septembre, dans lequel elle ne reconnaît pas que donc ces actions de décrochage de portraits relevaient de l'état de nécessité. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a cassé le jugement qui avait condamné 8 militants et militantes bordelaises à des amendes qui allaient de 250 à 600 euros pour le décrochage de ces fameux portraits. Donc si ça n'est pas une victoire totale, c'est quand même une demi-victoire, cette affaire.
Cette paisible rumeur-là.
c'est un poème de Verlaine, c'est Prison.
Alors, on va continuer et terminer cette émission en vous parlant de ProtonMail, donc un service de courriel chiffré situé en Suisse et qui a fourni aux autorités policières françaises des données relatives à certains de ses utilisateurs impliqués dans le mouvement climat. Donc, ProtonMail a été fondé en 2013 et se présente comme le plus grand service de messagerie sécurisée au monde. Ce site a connu un essor rapide et compte désormais plus de 20 millions d'usagers. En open source et automatiquement chiffré de bout en bout, ProtonMail est particulièrement apprécié par les militants. Il propose un haut degré de confidentialité et reste, contrairement à d'autres techniques, très facilement utilisable. Son slogan, la sécurité sans les tracas. Mais ça ne l'a pas empêché de fournir à la police l'adresse IP de militants engagés à Youth for Climate. Depuis un an, ces derniers font l'objet d'une surveillance massive après avoir occupé un local dans le quartier de la place Sainte-Marthe à Paris. Les jeunes activistes luttaient contre l'embourgeoisement et les spéculateurs et défendaient une vision de l'écologie résolument sociale. En septembre 2020, ils avaient organisé un camp climat. De nombreuses conférences avaient eu lieu pour se réapproprier la rue. Un squat avait été ouvert dans des bâtiments détenus par des promoteurs immobiliers avant d'être violemment évacué le lendemain. Deux mois plus tard, en novembre 2020, les militants avaient occupé un autre lieu inhabité depuis 5 ans qu'ils avaient baptisé l'Arche. Cette occupation avait suscité de nombreux remous dans la presse car le local appartenait à la SIEM, qui est un bailleur social, qu'il avait loué au Petit Cambodge, l'un des restaurateurs victimes des attentats du 13 novembre 2015. Les propriétaires ont porté plainte et à la suite d'une décision du tribunal de Paris, les militants et militantes ont été expulsés en janvier. Un militant a même écopé de 15 000 euros d'amende pour violation de domicile. La répression a continué par la suite. On a eu près de 10 procès, raconte un militant qui souhaite rester anonyme. Ça a abîmé le collectif et détruit des vies. C'est difficile aujourd'hui de s'en relever. Plusieurs personnes ont l'interdiction de se rendre sur place, dont 3 ont été condamnées à 3 mois de prison avec sursis. Et donc la répression ne s'est pas arrêtée là, puisque la police a aussi engagé une vaste enquête pour connaître les instigateurs de l'occupation. Youth for Climate a été identifié comme étant à la tête des opérations. Les enquêteurs ont épié les réseaux sociaux et se sont intéressés aux adresses électroniques avec lesquelles les militants et militantes communiquaient. Des lignes téléphoniques ont aussi été mises sous écoute. Le dossier fait plus de 1000 pages et des extraits ont été publiés sur le site Paris Lutte Info. Selon les policiers, le collectif militant Youth for Climate choisissait en effet l'occupation illégale de biens privés comme moyen d'action idéologique contre la gentrification du quartier, la loi sécurité globale ou encore la protection du climat. Lancé en février 2019, Youth for Climate organisait initialement des marches hebdomadaires pour le climat avant de durcir fortement sa ligne en prenant des actions de lutte directe anticapitaliste, ont-ils écrit dans le dossier.
Voilà, Bruit d'Auto se termine, donc on va clôturer. On se retrouve dans 15 jours en direct, donc le jeudi, sur le 92.2 de Canal Sud à 19h. Vous pouvez nous écrire à Bruit de Tôle, bruit au pluriel de Tôle, T-O-L-E-S, soit à la radio Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou un petit mail. Alors c'est Bruit de Tôle, je répète, bruit au pluriel de Tôle, T-O-L-E-S, @no-log.org. Bon, et ben, bon courage.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé partout, si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie? pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage, quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Ouais.